quand le tempo se ralentit, c'est le moment où Comaguerre prend la parole. Ouais. Bonjour à tous pour cette nouvelle émission des Carnets de Comaguerre. Bonjour à Roselyne, qui est sous son casque et dans la cabine technique.
Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde.
Merci d'être avec nous, Roselyne, de cette façon-là. Mais on sait que tu es avec nous de cœur et pour beaucoup d'autres choses que ce travail technique qui t'expose. Ouais. Voilà. Mais ce n'est pas ta seule intervention, loin de là. Et puis bonjour à Habib.
Habib.
Voilà. Qui est notre chroniqueur spécialisé dans le Moyen-Orient. Non, on ne dit plus Moyen-Orient, on dit Asie de l'Ouest. Hein, spécialiste de l'Asie de l'Ouest. Voilà. Grand lecteur d'une chaîne parmi d'autres, mais en particulier de Al-Mayadeen, qui fait un très très gros travail sur les événements.
Qui fait du bon travail.
Très bon travail dans ces régions. Ouais. Bien. Alors je vais commencer, c'est inhabituel, mais il faut le faire, par des excuses. Pourquoi ? Parce que la semaine dernière, emporté par mon élan et sans avoir vraiment préparé la question, je vous ai dit que Boris Johnson avait rejoint à nouveau le gouvernement britannique.
Oui.
Et en fait, je me suis trompé, parce que ce n'est pas Boris Johnson qui a rejoint le gouvernement britannique, c'est David Cameron lui-même, l'ancien Premier ministre, dont Boris Johnson était d'abord le ministre, avant de devenir lui-même Premier ministre. Alors pourquoi j'ai fait cette erreur ? Parce qu'effectivement, le Premier ministre britannique, M. Rishi Sunak, a effectivement changé de ministre des Affaires étrangères. Il avait mis à la tête de ce ministère une personne à laquelle il avait succédé, Madame Truss, qui avait été considérée comme un ministre de très très mauvaise qualité quand elle était Premier ministre, au point qu'elle est restée quelques semaines à ce poste. Bon, donc pour un peu la dédommager de cette éviction très rapide, il l'avait mis ministre des Affaires étrangères. Et elle n'était pas plus capable à ce poste-là qu'à un autre. Encore moins. Et donc, M. Sunak, de lui-même, ou peut-être sous la pression d'un certain nombre de ses amis, on dit c'est pas possible d'avoir un ministre des Affaires étrangères de ce niveau-là, c'est-à-dire faible par rapport au poste. Hein, peut-être une personne tout à fait sympathique, mais c'est pas, le problème n'est pas là, elle n'était pas adaptée au poste. Bon, donc on la débarque. Et puis, il fallait mettre quelqu'un de poids. Au contraire, parce que les affaires étrangères, surtout dans la période que le monde traverse, sont un poste extrêmement important, en particulier pour sa gracieuse... Ce gracieux... Non, on dit... Je ne sais pas comment on dit, d'ailleurs. On disait sa gracieuse majesté, je ne sais pas comment on dit. Ce cher Charles III. Bon, je ne sais pas. Bon, peu importe. Mais il fallait quelqu'un qui pèse plus lourd. Bon, donc ça ne pouvait pas être Boris Johnson, parce que Boris Johnson a quand même fait une fin un peu capu. Un peu calamiteuse. Et puis, en pratique, la semaine dernière, il était occupé, non pas par le poste des affaires étrangères, contrairement à ce que je vous ai dit, mais par une enquête parlementaire sur sa gestion du Covid.
Ah oui.
Et donc, effectivement, là, il est sous le feu des critiques et il y a une enquête parlementaire. Ce qui me permettait de signaler quand même qu'il y a une enquête parlementaire au Royaume-Uni, sur la gestion du Covid par le gouvernement, donc par le Premier ministre, il n'y a pas d'enquête parlementaire en France. Hein. Le Covid a été parfaitement géré, il y a toujours eu des masques, il y a toujours eu ce qu'il fallait, etc. Vous le savez. Mais il n'y aura pas d'enquête parlementaire, parce que la République macronienne ne fonctionne pas comme ça. La République macronienne, elle parle, elle dit une chose, puis son contraire, puis encore une autre chose en fonction des critiques. De toute façon, elle n'admet pas les critiques, et quand il y a des critiques, même fondées, qui arrivent à l'Assemblée nationale, où il y a quand même plusieurs centaines de représentants de l'opposition qui ne sont pas macroniens, on met un 49-3 sur la table et on ne parle plus des critiques. Donc il n'y a pas et il n'y aura pas. Alors un coup de chapeau à la Constitution, au régime britannique, qui permet quand même qu'il y ait une commission parlementaire sur des cas où la gestion du gouvernement est douteuse, critiquable. Hein, mais on met les choses sur la table. Mais il n'y aura rien sur la table en France. Alors ce qui est dommage, parce qu'au fond, quand on a l'habitude de regarder un peu sur les réseaux sociaux les questions qui touchent à la vaccination, à la propagation du Covid, à la gestion par le gouvernement, du Covid, on a affaire à tout un tintamarre, j'allais dire.
Surtout actuellement sur l'immigration.
Voilà. Alors, soit c'est l'immigration. Mais sur les vaccins, sur le Covid, vous pouvez lire des quantités de choses. Et puis, alors, il y a des camps qui se figent. Il y a ceux qui disent tout a été mal fait, il ne fallait pas vacciner. Il y a ceux qui disent il y avait tel médicament, etc. Et en fait, on bloque le débat et il n'avance pas. C'est-à-dire qu'il se fait des camps. Le camp populaire se divise en plusieurs morceaux. Et puis, il n'y a pas une espèce d'arbitrage d'un niveau au-dessus, qui serait un arbitrage parlementaire, qui dirait, ben voilà, on a pris le maximum de précautions, on a écouté tous les experts, on a tout pesé, et on formule un jugement, une appréciation sur cette gestion. Là, on est dans une espèce de combat de tranchées entre les pro-machin, pro-vaccin, contre-vaccin, pro-Pfizer, contre-Pfizer, dont on ne sort pas. Et chacun s'énerve sur son écran et sur son clavier. Mais ils ont encore décidé. Et on peut passer des soirées entières et des journées entières à ne faire que ça. Et le débat ne progresse pas. Et au contraire, ce qui me paraît plus grave, sur quoi j'insiste, il divise profondément et durablement le camp populaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une opposition au gouvernement, il y a des gens qui tiennent une thèse qui a été reprise par tel ou tel médecin ou telle académie, etc., qui se tiennent là. Donc on a des guerres de tranchées dans le peuple. Et ça, il n'y a rien qui profite plus au pouvoir que les guerres à l'intérieur du peuple. C'est bien évident. Bon, là, on y est en plein. Bon. Et donc, est-ce que la Grande-Bretagne veut dépasser ça? Au moins, elle a fait le geste de dire qu'il y a une commission parlementaire sur la gestion du Covid. Et donc, ce n'est pas Boris Johnson qui était aux prises avec cette commission d'enquête parlementaire, mais David Cameron, c'est encore plus grand, c'est donc le Premier ministre, l'auteur, j'allais dire, du Brexit. Non, mais celui qui a imposé le Brexit en faisant un référendum populaire qui a dit « il faut sortir » et ils sont sortis. Hein. Donc, il a du poids, qui a donc été nommé par M. Sunak comme nouveau ministre des Affaires étrangères, au Foreign Office, comme on dit. Il l'a fait, et quelques jours après, et j'insiste là-dessus parce que c'est les merveilles du système britannique, il a été nommé Lord. Alors qu'est-ce que c'est qu'un Lord ? Un Lord, alors, d'abord, à la Chambre des Lords, j'explique bien parce qu'on n'est pas en République, hein, c'est le Royaume-Uni, hein, donc c'est une monarchie constitutionnelle, et il y a deux chambres, comme chez nous. Chez nous, il y a deux chambres, il y a l'Assemblée et le Sénat. Le rôle du Sénat en Grande-Bretagne est tenu par la Chambre des Lords, qui a effectivement un poids dans les débats législatifs, qui intervient sur les textes, etc. Alors les Lords, qui c'est ? C'est d'abord des aristocrates qui sont là parce qu'ils sont descendants d'un autre aristocrate et qui sont à vie. Donc on est comte de ceci, duc de cela, etc. Bon. Et puis, Sa Majesté a le droit de nommer des lords pris dans le civil parce qu'ils ont été des citoyens exemplaires.
Des nobles, du roi.
Non, ce n'est pas des nobles. Eux, ils ne sont pas nobles. On les choisit et ils deviennent lords. Donc, ils sont de la petite noblesse, mais choisis par l'État, et ce n'est pas héréditaire, là.
Ah, d'accord.
Voilà. Et donc, M. Cameron, je crois que c'est une semaine après avoir été désigné comme ministre des Affaires étrangères, il est nommé lord. Et désormais, on n'est plus Monsieur David Cameron, on dit « Sir David Cameron ».«
Sir ».«
Sir », c'est une abréviation de « seigneur » en anglais, je rappelle. Que c'est ça que ça veut dire. Hein. « Yes, sir hein, ». Bon, voilà. Donc, voilà, Monsieur Cameron se trouve à ce poste. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que politiquement, d'une part, étant lord, il est lord à vie. C'est-à-dire que politiquement, le Premier ministre ne peut rien faire contre lui. Il pourra à la rigueur le débarquer, mais son poids est très très important. Il restera membre de la Chambre des Lords et tout. Donc il est quasiment intouchable et il ne court aucun risque électoral, puisqu'il est Lord à vie. Il est seul jusqu'à son dernier jour. Et il peut se livrer, parce qu'il connaît toutes ces choses-là, il peut se livrer à une activité diplomatique intense et quasiment en totale liberté. Et on peut considérer, et ça a déjà été dit par un certain nombre de journaux britanniques, Monsieur David Cameron mène la politique internationale de la Grande-Bretagne beaucoup plus que Monsieur Sunak. Et l'autre ne pourra rien lui dire. Donc, et qu'est-ce qu'il a fait, Monsieur David Cameron ? Mais une fois qu'il a eu ça, son titre de sœur dans la poche, son poste au Foreign Office, il s'est jeté dans les bras de M. Blinken. Il est allé à Washington pour dire « ça ne va pas ». Ce que Boris Johnson aurait pu faire. D'ailleurs, ce que Boris Johnson a fait en allant à Kiev, souvenez-vous, au mois de mars, si je ne me trompe pas, 2022, là, David Cameron est allé dire la même chose à Blinken. « Attention, il ne faut pas faiblir sur la question de l'Ukraine ». Alors, sous-entendu, on est en train de perdre, hein, mais c'est le moment de se ressaisir. Hein. Et donc, il a affiché, ce qui est un classique et ce qui démontre la permanence de la perversité britannique, c'est très clair, il a affiché que, en fait, la réalité de la réflexion politique... Alors, évidemment, le Royaume-Uni n'a plus les moyens de mener la politique mondiale, mais la perversité du Royaume-Uni... qui s'est exprimé à travers toute l'ère victorienne, etc., dans l'ère coloniale, peut s'exprimer largement, surtout quand on a affaire à une espèce d'assemblée de gouvernement décousu comme le gouvernement Biden, qui est effectivement très faible du point de vue de ses capacités intellectuelles. Hein ? Donc, en fait, prenons ça pour ce que ça veut dire. Ça veut dire que la Grande-Bretagne, avec toutes ses arrière-pensées et toutes ses mauvaises habitudes coloniales, essaye de reprendre la main sur la politique internationale des États-Unis. Ils y arriveront ou ils n'y arriveront pas, ça l'histoire le dira. Mais c'est un tournant très très intéressant, c'est-à-dire que la Grande-Bretagne s'est dit les États-Unis sont en train de faire n'importe quoi, il n'y a plus de gouvernement, ça va dans tous les sens, Biden ne parle plus, il dit plus grand-chose, même plus grand-chose de sensé, est-ce qu'il gouverne encore, on ne sait même plus, il faut que nous reprenions les choses en main pour aller dans le sens que nous avons choisi, nous, camp occidental, et quand je dis camp occidental, il faut être beaucoup plus précis, il s'agit du camp anglo-saxon, ouais. Car c'est bien ça qui se joue, car la politique occidentale n'est pas celle des anglo-saxons, la politique des anglo-saxons, elle s'élabore entre la Grande-Bretagne, qui est le maître à penser, les États-Unis, et puis trois vallées qui sont un gros vallée en taille, le vallée canadien, deux autres plus petits vallées, l'Australie, et un tout petit, la Nouvelle-Zélande. C'est ça. Et rappelez-vous, et la France devrait s'en souvenir, que ce groupe-là de la diplomatie anglo-saxonne a fait des effets ravageurs sur la politique française. Souvenez-vous quand même, c'était pas si vieux, de l'affaire des sous-marins pour l'Australie. Qui a mis à la porte les constructeurs français et le gouvernement français d'une façon qui l'a ridiculisé? C'est bien ce bloc anglo-saxon. Et donc là, il a bien marqué la différence. Le bloc anglo-saxon, c'est un bloc à part qui a ses intérêts à lui. Et puis, autour de lui, il y a des gens qui s'agglomèrent, qui s'ils ont envie. Et puis, quand on n'a plus besoin d'eux, on dit, on n'a plus besoin de vous. Gardez vos sous-marins, gardez votre vision politique.
L'Australie, elle fait partie des anglo-saxons.
Bien sûr, oui, oui, bien sûr. Donc, nous, c'est nous, la pensée dominante de l'Occident. Ceux qui marchent avec nous, tant mieux. Ceux qui ne marchent pas avec nous, on prend des décisions qui les défavorisent, tant pis. Tant pis pour vos sous-marins, c'est pas notre problème. Hein, c'est pas notre problème. Nous sommes les vrais maîtres de l'hégémonie occidentale. Il n'y a personne d'autre. Les autres, c'est par raccro. On raccroche à un moment la France, à un moment l'Italie, etc. Mais ça, c'est secondaire. C'est le deuxième cercle. Le premier cercle, c'est les cinq. On appelle ça les cinq yeux parce que c'est un cercle qui fait une politique étrangère et puis qui c'est un cercle d'espionnage mondial au service de ce bloc des cinq et au service donc de la politique des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Car là encore, même le Canada, même l'Australie et même la Nouvelle-Zélande ne sont jamais que déjà le premier demi-cercle autour des deux grands. C'est ça qu'il faut bien voir. Hein. Et quand, par exemple, on le sait, on l'a su, quand les cinq yeux espionnaient les conversations téléphoniques de Mme Angela Merkel, qu'est-ce qu'elle a fait, Mme Angela Merkel? Elle a quitté l'OTAN? Elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait parce qu'elle faisait partie du deuxième cercle, qui était un cercle de gens soumis, obéissants, et qui disaient « Ah, le patron n'est pas content, bon ben voilà, on va essayer de s'en accommoder ». Résultat de cet accommodement, le patron vous a cassé vos deux tuyaux de gaz russe, pas cher, bien fait. Maintenant, l'économie allemande, elle est dans très mauvaise santé, puisqu'on annonce même une baisse du PIB sur 2023. En attendant pire. Bien, ceci étant dit, parce qu'il méritait que ce fût dit, donc avec donc cette espèce de ressourcement et de ce renforcement de l'axe anglo-saxon, ça ne veut pas dire que tout est facile en face. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte, et David Cameron, qui est aux affaires depuis longtemps, comme plus que d'autres, même que la partie n'était pas simple et que c'était le temps effectivement de resserrer les rangs pour ne pas tout perdre. Parce que pour ce qui est de tout perdre, il y a quand même des signes un peu inquiétants. Alors, il pourrait se dire, ah ben on a regagné l'Argentine. Alors, on a regagné l'Argentine, peut-être, peut-être pas. Parce qu'en fait, quand on regarde le premier discours de M. Mieli après sa prise de pouvoir, il a annoncé que ça allait être l'austérité, il a annoncé aucune mesure concrète, parce que de toute façon, ça veut dire quoi? Je sais probablement où il va, enfin où il sait où il va aller, parce que de toute façon, ce n'est pas lui qui ira, c'est le Fonds monétaire international qui lui dira, tu fais ci, tu fais ça, et tu obéis. Alors il faut savoir que depuis très très longtemps, le Fonds monétaire international exerce une sorte de dictature extrêmement féroce sur l'Argentine. On l'a vu puisqu'à un moment donné, M. Kirchner et son épouse ont essayé de desserrer l'étreinte du Fonds monétaire international. Et finalement, ils ont réussi temporairement. Puis après, il est arrivé d'autres gouvernements qui ont remis le FMI sur la table. C'est le FMI qui gouverne à Buenos Aires. Et c'est comme ça pour un certain temps, sauf rupture beaucoup plus profonde que le péronisme, donc l'espèce de centre-gauche argentin qui existe, s'est avéré ne pas être en capacité de pouvoir remettre en cause. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y avait donc cette cérémonie de quasiment de M. Mieli, et il y avait pas mal de gens qui étaient là, de chefs d'État, de chefs de gouvernement. Et alors, il s'est passé une chose assez étonnante sur laquelle je m'arrête, c'est qu'il y avait dans l'assistance M. Zelensky qui, bien sûr, a les loisirs, tout se passe bien pour lui, il est heureux à Kiev tranquillement sur son tas de milliards, mais il est venu voir, il dit quand même, c'est quelqu'un que je vais voir parce que je sens des affinités avec Mieli, je viens. Et puis, il a rencontré à cette occasion, alors dans une assemblée où il y avait beaucoup de responsables, chef d'État, chef de gouvernement, il est tombé sur M. Orbán, le Hongrois. Et ce qu'on a vu, puisque ça s'est passé en public, dans une séance publique, etc., c'est que M. Zelensky, dans sa tenue de clown, est venu s'en prendre dans un coin de la salle à M. Orbán. Et je ne sais pas s'il l'a insulté, parce qu'à regarder, ce n'est pas des insultes. Mais enfin, il était un peu agressif et il a dû dire « Il y en a assez que tu dises du mal de moi et que tu dises que la Hongrie en a assez de fournir de l'armement et l'Union européenne devrait arrêter de soutenir l'Ukraine. » Enfin, il a dû avoir un échange assez sévère. Je ne sais pas d'ailleurs si Orbán a répondu, mais l'autre était extrêmement vindicatif. On a affaire à des disputes du niveau de la cour de récréation où deux gamins, devant les micros et devant les caméras de la planète entière, s'en prennent l'un à l'autre. Alors celui, c'est plutôt Zelensky qui s'en est pris à Orbán, qui n'avait sans doute pas prévu le coup. Et puis c'était totalement incongru dans ce genre de cérémonie. Bon. Alors ça m'amène. Alors ça a constaté. Puis ça m'amène à une autre réflexion. Ça m'amène à une autre réflexion parce qu'on a dit déjà, Zelensky, c'est le clown qui a été chargé de faire passer une politique dont il n'est pas le concepteur et encore moins un mauvais réalisateur, et il n'est pas tout seul à la réaliser. Bon. Donc on a embauché un clown après la bataille, c'est-à-dire quand on s'est aperçu que le clown précédent n'était pas complètement obéissant, j'en ai parlé la semaine prochaine, on a pris Zelensky, lui il n'a aucune attache, il n'a aucune culture politique, etc. C'est un très bon clown. Alors, c'est un tellement bon clown qu'en particulier, il a un épouvantable accent ukrainien parce qu'il s'oblige à parler ukrainien. Mais l'ukrainien, ce n'est pas du tout sa langue maternelle. C'est le russe, sa langue maternelle. Et il paraît, moi, je ne suis pas juge, bien entendu, mais quand il parle l'ukrainien, c'est un peu un sabir. C'est pas très, très beau à écouter. Bon, donc, c'est un clown, c'est mauvaise embauche, c'est un mauvais choix pour le casting. Le type ne parle pas bien l'ukrainien alors qu'il dit qu'il n'y a que les Ukrainiens qui ont le droit de vivre et que ceux qui parlent russe, il faut les tuer. Bon, alors il devrait d'ailleurs se suicider, ça serait la meilleure solution. Ça me vient maintenant. Bon, alors clown. Clown, mais de raccord. Alors, ce qui est intéressant dans le phénomène Mieli, c'est que le clown arrive directement au pouvoir, élu par une population argentine qui est totalement désorientée et qui est face à une inflation cruelle, face à des ruptures dans tous les systèmes sociaux, éducatifs, etc. Et donc qui est dépassé par les événements et par la faillite de l'Argentine globalement, et qui adhère au spectacle. Alors, il y avait du spectacle. Alors là, on a embauché le clown en direct. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait le clown. Alors, j'ai rapproché ça. Alors, vous allez voir, je vais faire un rapprochement historique assez intéressant. Parce que le fait de mettre un clown directement au pouvoir, parce que c'est rien d'autre, mais c'est un clown mis au pouvoir par le FMI, par Washington, etc. C'est la suite, mais c'est une suite totalement nouvelle par rapport à ce qui s'est passé en 1940. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1940? Je vais vous parler clownerie. Qu'est-ce qui se passe en 1940? Souvenez-vous, et si vous ne l'avez pas vu, jetez-vous sur ce film, Charlie Chaplin tourne Le Dictateur. Film extraordinaire qui mérite d'être vu, je pense qu'on le retrouve dans toutes les bibliothèques municipales, etc. Charlie Chaplin, donc, traite comme un clown Hitler dans ses éructations, dans ses discours fous, dans ses cris de folie, dans les meetings et tout. Donc c'est le clown qui a bien vu qu'il avait un modèle extraordinaire, Hitler en tant que clown, mais clown sanguinolent, clown meurtrier, etc. Hein? Mais là, on a une distance, donc entre 33 et 40, il y a 7 ans pendant lesquels Chaplin, qui a l'œil, hein, c'est un vrai comédien, c'est un vrai clown lui-même, de clown d'excellente qualité, exceptionnel, a bien intégré le personnage et il est capable de le montrer au monde entier en disant « Voilà, on est en 40, il ne s'est presque rien passé. » Enfin, l'opération, la guerre Barbarossa n'a pas eu lieu et tout. Hein. Et Chaplin, qui est aux États-Unis, dit aux Américains, pour commencer, et dit à la planète entière « Voilà le monsieur qui est à la tête de l'Allemagne. regardez-le bien comme il est vraiment. Hein. Moi, je vous le réplique, je vous le fais comprendre. Mais quand on le voit, souvenez-vous, il y a une scène extraordinaire où il est allongé sur le bureau, il a les jambes en l'air et il joue avec un ballon qui est la planète. Hein. C'est dire le peu de respect d'Hitler pour la population humaine. Bon, donc là, on a la distance, c'est-à-dire Chaplin correspond exactement à celui qui dit voilà ce que c'est que ce personnage historique. Et bien maintenant, on a fait un raccourci, et ça, c'est possible aujourd'hui avec la vidéo, YouTube, etc. On n'a même pas le besoin d'un comédien qui vient expliquer ce que c'est M. Mieli, puisque M. Mieli, c'est le comédien lui-même. Donc on a en direct la clownerie. Alors que dans le cas de Chaplin, il avait pris le temps d'analyser, de regarder, de reprendre le bruit du discours hitlérien. Souvenez-vous les passages où on croit qu'il parle, il éructe de l'allemand, c'est pas de l'allemand. Mais en fait, il a parfaitement compris la logique du discours hitlérien, qui est une espèce de discours, une espèce de fleuve d'insultes, de gros mots, de hurlements. Et donc là, Chaplin l'avait parfaitement intégré. Là, avec Mieli, c'est direct, on a le comédien en direct, on a des comédiens à la tête d'État. Alors on avait déjà Zelensky. Et maintenant, on a Mieli, on aura peut-être d'autres sur ce modèle-là. Ça veut dire que ces gens-là n'ont pas de pouvoir, ils sont là pour la comédie. Hein, et j'espère que le peuple argentin se ressaisira pour, quand il aura trop mal, en disant « mais c'est pas ça qu'on veut, hein, et c'est pas ce genre de personnage ». Alors, est-ce qu'il y aura, forcément, quand, à quel rythme, est-ce qu'il y aura de la profondeur de la société argentine, des gens qui sortiront en disant « maintenant, on ne veut plus de ça, on veut être maître chez nous et on en a assez de la dictature du FMI, du dollar, etc. » Je ne peux que le souhaiter. Mais là, c'est aux Argentins de faire le travail. Alors, sur l'Argentine, on dit encore, enfin, il y a déjà une des ministres de Mieli qui a dit qu'ils allaient sortir des BRICS. Je ne suis pas sûr qu'ils le fassent. On verra dans 15 jours. Ce n'est pas évident, parce que précisément, ceux qui tiennent les ficelles de la marionnette vont peut-être dire « c'est peut-être pas la peine de se fâcher aussi avec eux, arrondissant les angles ». Je ne sais pas. C'est une hypothèse que je fais. On en reparlera certainement. Voilà, c'était une introduction un petit peu longue, mais qui recadrait un certain nombre de choses, en particulier sur le rapport à la politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre rapport à la politique se fait à travers des écrans, des personnages qui gesticulent, des personnages qui font des actes excessifs, qui font du spectacle. La politique spectacle, ce n'est pas de la politique. La politique, c'est mesurer les intérêts d'un pays, regarder loin, avoir une stratégie pour arriver à des objectifs, les faire valider par des représentants du peuple. Ce n'est pas se donner un spectacle tous les matins et dire un bon mot tous les jours devant les caméras de télévision. Ça, ce n'est plus de la politique, c'est de la comédie. Et nous avons déjà un président de la République qui est principalement un comédien. Ouais. Un comédien des banques, un comédien du libéralisme, mais il est déjà ça. Alors, il est passé par les urnes, hélas, hein, mais c'est un comédien. Il y en a peut-être d'autres qui voudraient bien prendre la place de comédien et qui ne seraient pas plus capables que lui. On verra. Ça, c'est la réflexion du peuple français qui le dira et qui le fera. Alors, dans ceux qui marchent sur leurs deux pieds et qui tiennent la route, voilà. Parce qu'il y en a. Il y en a. Je vais parler d'un certain Vladimir Vladimirovitch, vous savez. Bon, ouais. Il a fait quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Parce qu'il a pris son avion, il a un avion présidentiel, comme tous les présidents honorables. Hein. Et puis il a dit, bon ben voilà, je vais visiter l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Ah bon, bon. Alors c'est vrai que les relations d'abord sont bonnes, elles existent à travers en particulier l'OPEP, les pays pétroliers, etc. Et puis elles vont nécessairement s'intensifier et augmenter en qualité avec l'entrée des deux pays donc l'Arabie et les Émirats Arabes Unis au BRICS dans 15 jours maintenant. Bon. Donc il y avait de bonnes raisons pour qu'on l'accueille bien. On l'a bien accueilli, mais on est allé bien au-delà de ça. C'est-à-dire que contrairement à tous les usages diplomatiques, M. Poutine est arrivé avec son avion présidentiel, escorté de 4 chasseurs. Oui. 4 chasseurs, donc il y a 4 chasseurs qui ont survolé le territoire d'Arabie Saoudite, le territoire des Émirats Arabes Unis, ce qui ne se fait jamais. Jamais on a vu un chef d'État venir avec ses avions de guerre au-dessus d'un pays qui l'accueille par ailleurs tout à fait cordialement et mieux que ça. Puisque, alors, et là, on est au comble de l'ironie et au comble de la maîtrise russe des phénomènes. C'est-à-dire que pendant que les 4 chasseurs russes escortaient l'avion présidentiel, les chasseurs américains d'origine des Émirats Arabes Unis et d'Arabie Saoudite faisaient passer avec les fumées modèle... vous savez, là, comme la patrouille de France, oui. Les couleurs du drapeau russe au-dessus de l'avion présidentiel dans le ciel de leur pays. C'était grandiose, c'était un accueil.
Ils ne l'ont pas fait pour Biden. Hein.
Non, bien sûr. Donc c'était grandiose, c'est-à-dire les avions américains ne servaient qu'à faire de la publicité à Poutine, puisque c'est ça. Hein. Bravo, vive le président de la Fédération de Russie. Nous l'accueillons comme un grand ami dans tous les... Et puis on n'est pas du tout inquiet parce qu'il est venu avec 4 chasseurs qui escortent son avion présidentiel. Alors il avait raison d'avoir 4 oui, chasseurs parce que pour arriver de Moscou jusqu'à Riyad ou jusqu'à Abu Dhabi, il faut quand même survoler un certain nombre de territoires qui ne sont pas russes et où il y avait beaucoup de monde. Et bien l'avion présidentiel escortait des 4 chasseurs Su-35 de l'aviation de guerre russe sont passés au-dessus du golfe Persique où il y a un porte-avions États-Unis, des 2 destroyers, enfin où il y a une flotte des États-Unis extrêmement dense. Ils leur sont passés au-dessus. Et puis, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que M. Poutine n'est pas mort. Alors, il y a effectivement des journaux qui disent depuis des semaines, il est mort. Ben, il n'est pas mort du tout. Et quand il est là, bien vivant, juste au-dessus d'un porte-avions américain, le porte-avions américain est bien, bien sage et ne fait pas de bêtises. Alors, il ne fait pas de bêtises parce qu'on dit maintenant, ce qui est très probable parce que ces gens-là sont intelligents et formés à ce genre d'activité, la marine des États-Unis était prévenue. Soit sous-entendu, les chasseurs en question arrivent armés avec des missiles qui sont capables, avec des portées de 500 ou 800 km. C'est-à-dire que pour ces chasseurs, avec ce qu'ils avaient sous les ailes, couler un porte-avions était une opération d'une extrême simplicité. Alors on prévient, voyez, on va passer au-dessus du porte-avions, mais tout est calme, on ne vous veut pas de mal, vous nous laissez passer, ce qui fut fait. Voilà. Donc ça dénote une extrême maîtrise des relations avec ces empires, avec cet empire vieillissant sur lequel je voulais insister. Parce qu'il y a eu un effet de surprise très grand hein, dans les médias. Il est allé. Ça veut dire que c'était préparé, conçu avec le maximum de précautions. Alors j'ai essayé d'imaginer, ça n'a pas été rendu public, le parcours. Partir de Russie pour arriver jusqu'en Arabie. En fait, je pense que le parcours le plus simple, c'était passer sur la mer Caspienne, passer sur l'espace aérien iranien, qui était tranquille, survoler le porte-avions Eisenhower, et arriver en Arabie. C'était certainement l'endroit le plus simple.
Le golfe Persique.
Voilà. Pas question de passer au-dessus de l'Irak, qui n'est pas très sûr. Pas question d'aller passer même au-dessus de la Turquie, on ne sait pas trop à qui on a affaire. Passer sur l'Iran via la Caspienne, c'était sans doute la solution la plus sûre et la plus paisible. Ce qui fut fait. Ça, j'en ai pas la certitude, mais enfin, à réfléchir ça après, par où il est passé, bon, il est passé. Il y a probablement, en plus, les observateurs militaires s'inquiètent en disant « Mais ces chasseurs partis de Moscou ont fait combien de milliers de kilomètres pour arriver à Riyad ? Ça fait beaucoup, donc ils auraient une autonomie extraordinairement plus importante que les chasseurs de fabrication américaine. » Alors ça, c'est pas sûr, parce qu'il y a probablement eu un ravitaillement en vol qui n'a pas été filmé, enfin, qui a peut-être été filmé, mais qui n'a pas été montré au public. Donc il s'agit d'une opération qui s'est passée, ça a été très vite, tout ça s'est fait dans la journée, hein, le voyage, les 2 escales, etc. Montée de main de maître, avec des gens parfaitement, une équipe parfaitement consciente de ses capacités et des faiblesses de l'adversaire, et c'est une réussite de ce point de vue-là. Et puis on va le voir dans les communiqués. Alors les communiqués qui font suite à la visite ne sont pas très détaillés, mais ça montre que ça s'est très bien passé. Il a été reçu par les 2 chefs, pas les chefs d'État, puisque en Arabie Saoudite, on est encore formellement le papa qui est encore un peu au pouvoir, hein, mais par MBZ et par MBS, les 2 MB. Hein, donc il a été reçu par les 2 personnages les plus importants, et en fanfare, avec un accueil triomphant
à
la sortie de l'avion, etc.
Et le retour en Russie, c'est aussi bien passé ?
On n'en a pas beaucoup parlé.
Non, ils n'en ont pas parlé du tout.
On
n'a pas entendu parler.
Je pense que le camp adverse avait dû mettre son bonnet par-dessus. On dit, bon, ça va, c'est fait, on n'en parle plus. Hein, il est passé dans un sens, il partira dans l'autre. Hein, avec sans doute les mêmes précautions, en disant, oui, il va repasser, à telle heure, il passera. Hein, on sera au-dessus, on aura nos chasseurs, on a nos missiles, on s'est bien compris. Bon, ça, c'est comme ce matin. Hein, voilà. Bon. Mais alors ça, c'est dommage parce que là où la télévision pourrait être un instrument d'éducation populaire, ce serait qu'un journaliste intelligent explique ça. Mais expliquer ça, ça veut dire qu'il y en a un qui est maître des événements et qui fait ce qu'il a décidé de faire avec toutes les précautions nécessaires, et les autres qui prennent ça, j'allais dire, qui prennent ça dans la figure et qui n'ont rien vu venir. Et donc, effectivement, le ridicule serait total. Mais si ça ne se passe pas, c'est que précisément, ce ridicule-là est quelque chose qui fait très, très, très douloureux à accepter pour les puissances occidentales, puisque ça montre leur état de désarroi, leur état de déliquescence, qui est ce qu'il est. Alors, beaucoup de citoyens le savent, mais comme effectivement on ne voit pas de perspective de changement très importante, on souffre de ces faiblesses-là, nous tous, par les politiques qui sont menées. Bon, ce n'est pas l'objet de l'émission d'aujourd'hui. Mais c'était important de pointer à cette espèce
et
de rampe.
Et là, n'est rien sorti de ce truc jusqu'à présent.
Non, pas parce qu'il y a sans doute eu des accords. Ils ont sans doute beaucoup parlé de tarifs du pétrole,
puisqu'il y a la production de pétrole.
Et puis d'autres accords militaires. C'est-à-dire qu'il faut bien savoir que jusqu'à présent, autant l'Arabie Saoudite, qui a en raison de dizaines de milliers de dollars tous les ans que les Émirats Arabes Unis, achetaient tout aux États-Unis. Et de temps en temps, un peu à Israël pour certaines armes spécialisées. Bon, ça, manifestement, ça va changer. Ça va changer. Bah, dans la mesure où, effectivement, il y aura un matériel militaire, ça fait ça aussi partie de l'opération. Les SU-35 sont des appareils de pointe parmi les meilleurs du monde. Alors, quand on a à renouveler une flotte de F-16 Lockheed en Arabie Saoudite, on peut se dire, ah là, il y a un meilleur appareil que les Lockheed, et pourquoi ne pas prendre ceux-là ? Il y a ça aussi, il y a des intérêts matériels tout à fait réels, mais à choisir à dépenser des dizaines de milliards de dollars en achat d'armement, autant d'avoir des armements de meilleure qualité. Bon, c'est tout. Et donc là, il y a une concurrence, on joue à ce jeu-là. À propos de concurrence, autre sujet cocasse, si j'ose dire. On a parlé la semaine dernière donc du fameux référendum au Venezuela.
Venezuela, oui.
Qui a donc donné une très grosse majorité, au-dessus de 95%, en faveur donc du maintien de la position du Venezuela, consistant à dire, je le rappelle, après l'indépendance de la Guyane, du Guyana, il y a une négociation entre le gouvernement du Venezuela et le nouveau gouvernement du Guyana. Le président actuel, ouais. Là, il n'était pas encore en poste. Mais au terme duquel il y a eu, en 1966, un accord dans lequel il est reconnu que le Venezuela absorbe la province de l'Essequibo. Bon, c'est tout à fait clair, ça, et ça n'a jamais été discuté. Or, il se trouve que, poussé par des vents contraires, j'allais dire, l'actuel président du Guyana essaye de dire qu'il faudrait que la Cour de justice internationale intervienne et mette son nez dans ce conflit frontalier. À quoi le Venezuela répond « Non, vous étiez souverain en 1966, on a discuté d'égal à égal, de gouvernement à gouvernement, vous avez reconnu que ce territoire faisait partie jusqu'au 19e siècle du territoire du Venezuela, c'est tout, on n'en parle plus, il n'y a pas à faire intervenir la Cour internationale de justice, vous avez signé un accord, on ne revient pas sur cet accord. Bon. Ça c'est la position très très claire du Venezuela et c'est ce qui a été approuvé par les électeurs vénézuéliens. Alors il y a des gens, bien entendu, que ça dérange, parce que ceux qui voulaient faire un conflit avec le Venezuela autour de cette affaire-là essayent de trouver une issue, enfin un moyen de faire approfondir le débat et de continuer à faire des difficultés au président Maduro et à son équipe sur un autre sujet que les sujets intérieurs, Guaido, j'en passe et des meilleurs, toutes les misères qu'on arrivait à continuer à les faire avec le phénomène, enfin l'histoire de l'Essequibo. Bon. Ça ne va peut-être pas aller très loin, parce que ce qui se passe, alors c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'on a appris, et je l'ai dit, et vous le saviez, et ça va être dit et redit, que c'est Exxon, donc la grosse multinationale américaine, qui a trouvé du pétrole d'excellente qualité dans les eaux territoriales du Guyana. Mais il se trouve qu'on a appris depuis, alors c'était peut-être déjà signé, mais ce n'était pas apparu dans les gazettes, comme on dit, qu'une des grosses compagnies pétrolières chinoises avaient passé un accord avec le gouvernement du Guyana aussi, et qu'ils avaient déjà eux aussi trouvé du pétrole. Donc ça veut dire qu'il y a maintenant deux opérateurs, un plus gros et un plus petit, pour le pétrole du Guyana, qui permettent au Guyana d'avoir un avenir financier tout à fait tranquille, même s'il perd les deux tiers du territoire qu'il croit être le sien, parce que c'est le cas, hein, c'est deux tiers du territoire. Bon, donc l'avenir financier du Guyana n'est pas en cause. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est de savoir que, puisqu'il y a un investisseur chinois de qualité, qui connaît le métier, etc., qui est là, si jamais Exxon se trouve mal Hein, il se trouve exploitant un gisement qui est excellent, mais dans des conditions politiques discutables. Eh ben Exxon peut s'en aller. Le Guyana continuera de vivre tranquille de son pétrole. Donc ça, c'est un autre élément de la situation qui montre comment s'articule le jeu. C'est bien sur un cas concret de le voir. S'articule le jeu entre la Russie, la Chine, etc. Ça veut dire que là, on a vu que, et c'était la crainte de Maduro, le Venezuela, c'était de dire, si au niveau de cette affaire de territoire qui a été réglée une bonne fois pour toutes par l'accord entre les deux pays, on se met à faire venir l'armée des États-Unis en Guyana pour compliquer la vie, pour faire des incursions sur le sol vénézuélien et tout ce que ça peut supposer. Bon, ça, c'est l'aspect diplomatico-politique. Mais en même temps, sur l'aspect économique, si vous dites, ben, si Exxon n'est pas content, s'il trouve qu'on lui fait de mauvaises conditions, etc., qu'il est mal accueilli, eh ben, il y a une firme chinoise qui est déjà là et qui prendra gentiment la place et on n'en parlera plus. Et comme quoi, il y a articulation du politique et de l'économique. C'est comme ça aussi que ça fonctionne. Mais on ne l'explique pas parce que nous, on voudrait que tout le monde ait tout vu depuis Washington et que tout soit clair. C'est pas si facile. D'autant plus, alors, ce qui me conforte dans cette analyse, c'est qu'il a été prévu une réunion au sommet entre le président du Guyana et le président Maduro. Hein, personne n'a sorti son fusil de chasse. Hein, ils vont se voir, ils vont se parler. Et on va parler sérieusement, on va parler économie, on va parler territoire, on va parler souveraineté, et on va parler du fait que cet accord de 1966, c'est le seul valable et qu'il n'y a pas besoin d'attendre que la Cour internationale de justice tranche. C'est un débat sur lequel on ne lui demande plus de trancher, parce que la position vénézuélienne est tout à fait claire. Nous avons eu un accord, et donc la Cour internationale de justice, qui est là pour régler certains des accords, on n'en a pas besoin. L'accord, il existe, il a été signé. N'en parlons plus. Maintenant, parlons entre voisins de la vie commune qu'on peut avoir le long de cette frontière nouvelle, qui en fait est la frontière historique entre nos deux pays. Voilà, c'était un petit retour sur cette affaire vénézuélienne qu'on va encore nous présenter de façon caricaturale dans les gazettes, comme on dit. Alors, je regarde l'heure. Il serait temps de passer la petite pause musicale que j'ai prévue. Et on va, il y a d'autres sujets très intéressants. De passer cette chanson, on va en passer quelques mesures. C'est une chanson de... de Ali Primera, le chanteur vénézuélien, qui s'appelle « Hommage aux Valientes ». Alors, les Valientes, en espagnol, c'est les courageux.
Ah, d'accord. Hein? Valeur, quoi. Valiente.
Voilà, ceux qui sont, les vaillants, on dirait. Oh, vaillant, hein, les courageux. Ouais. Hein? Alors, on en passera quelques mesures, mais ça veut bien dire que... Enfin, Ali Primera, qu'on connaît, dit il faut que les citoyens sud-américains soient courageux pour échapper ou se soustraire à l'influence du patron de Washington.
Ya no sopla el viento arriba, bajo de la cordillera. Paso rasando en Santiago, calentando las trincheras. Canción de huesos chilenos, de lo profundo de adentro. Canción para los valientes, que la cante Víctor Jara. Una canción de violeta para el compañero Allende.
Voilà, je vous rappelle le titre pour ceux qui voudraient le retrouver sur le net. Canción por los valientes, pour les vaillants, les courageux, ouais. Ceux qui luttent pour leur pays, pour l'indépendance de leur pays. Le message est parfaitement clair. Et à un moment donné, il fait référence à Víctor Jara. Et à la fin de la chanson, il parle de Allende aussi. Donc c'est une chanson qui a...
Il s'appelle Ali Primera.
Ali Primera. Voilà.
C'est encore...
c'est un Vénézuélien. C'est un Vénézuélien.
Ali...
Ben oui, ah, peut-être, oui, c'est probablement, oui. Mais là, oui, ah, oui, ça sera tout à fait possible.
Ça doit être encore. Voilà.
Alors, revenons à une autre actualité. Je vais parler un peu du Congo. Un peu du Congo, puisqu'il doit se tenir la semaine prochaine des élections. Alors, tout à la fois, alors c'est des ambitions considérables et peut-être excessives, j'insiste là-dessus. Vous voulez tenir dans un pays de 110 millions d'habitants, qui fait 4 fois la France et même un peu plus, où il n'y a presque pas de route goudronnée, j'insiste. Il n'y a presque pas de route goudronnée.
Il y a des pistes.
Il y a des pistes. À une saison des pluies, à la saison des pluies. C'est-à-dire on ne peut pas aller dans tout le monde. Il y a des endroits où on ne peut aller qu'en avion. Mais il n'y a pas assez d'avions. Le président en exercice aujourd'hui n'a pas assez d'avions personnels pour faire sa campagne, puisqu'il est candidat à sa réélection. On en est là. On en est obligé d'imaginer de louer des hélicoptères à un pays étranger pour que le président de la République puisse aller faire la campagne électorale. Bon, c'est ça l'état du Congo. Alors, quand on plaque sur ça, cette situation-là, dont les Congolais ne sont pas responsables, j'y reviendrai. Mais quand on plaque une élection présidentielle, législative, communale, régionale là-dessus, pour 45 millions d'électeurs, c'est une tâche énorme. Tellement énorme que le Congo n'arrive pas à la mener tout seul. Il faut savoir que les bulletins d'émargement pour les bureaux de vote, il y en a, je crois, 75 000, je dis ça de tête, mais enfin beaucoup, beaucoup, sont arrivés de Chine avant-hier. Ça veut dire d'une part que le Congo n'est pas en capacité d'imprimer ses bulletins de vote et qu'ils sont arrivés peut-être en retard, je ne sais pas, ou est-ce qu'ils n'avaient pas payé, enfin je ne sais pas ce qu'il y a eu, mais ils sont arrivés qu'avant-hier. Et il faut les répartir, pas en camion, puisque les camions ne passent pas. Il faut les répartir avec des avions qui ne sont pas assez nombreux, avec des hélicoptères qu'on était en train d'essayer de louer in extremis. Tout ça, c'est pour le 10. C'est-à-dire que ça a dû commencer hier, et puis ça devait s'étaler sur plusieurs jours. Bon, donc, conditions matérielles épouvantables, et il y a une partie du pays où le gouvernement ne gouverne pas. C'est la partie Est, dans laquelle il y a, on le sait, une guérilla, je mets ça avec les guillemets qu'il faut, le M23 et tout, dans les territoires les plus riches, en cobalt, en coltan, les minéraux nécessaires pour fabriquer vos téléphones portables, messieurs, dames. Bon, vous en avez tous et vous avez de bonnes raisons de les utiliser, la question n'est pas là. Mais donc ces deux provinces-là, qu'on appelle le Kivu et l'Ituri, sont des provinces qui sont formellement à l'intérieur de la République démocratique du Congo et qui, en fait, n'obéissent pas au gouvernement central. Point. Au profit de qui? Alors là, on n'en parle pas, mais au profit de qui? Voilà, au profit d'abord des compagnies qui vont, elles, utiliser pour mettre ça dans leur téléphone portable, et puis au profit de l'exportateur de ces pays-là. Car ce n'est pas le Congo qui exporte ses propres minerais, c'est le Rwanda. Alors, dans les statistiques douanières du Rwanda, c'est tout à fait clair. Le Rwanda exporte du cobalt, du coltan et tout, qui ne produit pas du tout. Ça veut dire que le Rwanda est un voleur de minerais d'autrui qu'il exporte et il s'enrichit avec les droits de passage qu'il prend. Mais ce n'est pas lui, de toute façon, non plus, qui les sort des mines. Bon. Alors, faire une élection. Alors, c'est là où je suis un peu triste, parce que faire croire à l'opinion internationale ce qui va exister, qu'il va y avoir des élections au Congo dont le résultat sera ceci ou cela, enfin, on verra jamais. Je dirais un mot, mais faire croire que la démocratie peut réellement s'exercer dans des conditions si pitoyables, pas de route, les bulletins qu'on n'est pas capable d'imprimer. J'ai découvert, c'est ahurissant, les cartes d'électeurs qui avaient été fabriquées en 2018 pour la précédente élection présidentielle. Ces cartes d'électeurs, elles ont été imprimées. Alors, je donne un détail technique, mais ça en dit long. C'est-à-dire, on attend de ces pays-là des choses qu'ils ne sont pas en capacité de faire. Ces cartes d'électeurs ont été imprimées avec des imprimantes à jet d'encre et pas avec des imprimantes à laser. Alors, vous qui avez des imprimantes à la maison ou qui vous servez d'imprimante, vous ne voyez pas la différence. Il y a des différences. Il se trouve que les impressions sur les imprimantes à jet d'encre ne sont pas stables. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, vous arrivez à la prochaine, ou 4 ans, la prochaine élection présidentielle, il fait très humide au Congo. Vous avez votre portefeuille qui a été bouillé et tout. Votre carte d'électeur est illisible parce que simplement, elle n'a pas été imprimée avec une imprimante laser. Ça aurait coûté plus cher. Bon, alors, à force de petits détails comme ça qui paraissent cruels, mais ça veut dire quel crédit on peut accorder à des élections tenues dans des conditions aussi ahurissante, ben pas grand chose. Mais pour l'Occident, dire ah, il y a des élections, machin a gagné, on est pour, on est contre et tout, c'est fait. Et en fait, c'est un peu ridiculiser le sens même de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie possible dans ces conditions-là. Combien vont voter Comment seront contrôlés les résultats des bureaux de vote? On ne sait pas. Il n'y a plus d'observateurs internationaux. Alors on vous dit, parce que dans beaucoup d'élections, on vous dit, là c'est contesté, mais il y a des observateurs internationaux. Il n'y en a plus. Ils ont abandonné le Congo, les observateurs internationaux. Et qui a mis en place, alors il y a en place une commission électorale, vieux classique, etc., qui n'a pas eu l'honneur de plaire à deux des principaux acteurs de la scène politique et sociale congolaise, qui sont l'Église catholique et l'Église protestante, ou les Églises protestantes. Or, il se trouve qu'elles n'ont pas été représentées correctement dans la commission électorale indépendante, qu'il y a d'autres groupes qui sont là, et qu'en fait, la confiance dans cette commission électorale est extrêmement faible, puisque vous avez les deux principaux groupes de pression, appelons ça comme ça, qui n'en sont pas membres et qui ont critiqué cette commission électorale. Alors, de tout ça, on va nous sortir dans quelques jours, machin est élu ou truc est élu. Ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Ça veut dire qu'effectivement, les multinationales qui voudront investir au Congo, ouais, elles passeront quand même par Kinshasa pour aller signer un bout de papier avec celui qui sera élu. Mais au fond, c'est prendre les électeurs africains et prendre ce pays-là pour un gamin avec lequel on s'arrange. Ouais, on lui dit, oh oui, tu fais la démocratie à ta façon, ça n'a pas beaucoup d'importance. L'important, c'est que tu sois là pour signer. Tu prends ta commission sur notre business et fais ce que tu veux par ailleurs. Hein. C'est lamentable parce que ça abîme le concept de démocratie. Ça fait croire au président qui sera élu, qui sera peut-être un brave homme, la question n'est pas là, qu'il a du pouvoir alors qu'il n'en a pas beaucoup, hein, et qu'on va continuer à empêcher le Congo de se développer, c'est-à-dire qu'au lieu de se livrer à ce genre de comédie d'influencer le processus électoral, on pourrait financer des routes au Congo. Hein, on pourrait financer, pourquoi pas, la construction d'une usine d'hélicoptères au Congo. Il en a besoin, mais ça, on ne le fait pas. Ça veut dire, vous êtes des petits attardés, et ben restez-le, en attendant, vous vivez sur un stock de minerais extraordinaire. Là, ça nous plaît. Voilà. Alors après...
D'ailleurs, ils prennent toute l'Afrique comme ça. Hein.
Mais oui, mais voilà. Bah, et là c'est particulièrement spectaculaire. Parce que c'est grand, le Congo. Ça a été l'objet de conflits d'intérêts énormes, vu la taille et vu les ressources minières qui sont considérables, vu le voisinage aussi. Bon, mais en fait, les traiter comme ça, dire qu'il y a une élection sérieuse en Afrique, alors les observateurs sont partis. La mission de l'ONU s'est montrée depuis des années dans l'incapacité. Il y a plus de 10 000 personnes dans la mission de l'ONU, dans l'incapacité. Et elle intervient. Elle n'intervient pas dans le processus électoral. Elle n'intervient même pas pour séparer les combattants dans les zones du Kivu et de l'Ituri. Bon, donc, en fait, on nous donne une espèce de récit qui n'a rien à voir avec la réalité. Et la réalité serait que ce pays aurait besoin d'être respecté dans son indépendance, aidé financièrement, au lieu d'être promené sur la scène en disant « Regardez, il y a un nouveau président congolais hein. ». De la même façon, on nous a mis en circulation le prix Nobel de la paix, le docteur Mukwege, qui est un personnage respectable pour tout ce qu'il a fait par rapport aux sévices sur les femmes congolaises. Tu connais pas ? Le docteur Mukwege.
Mukwege.
Voilà. Mais en fait, il n'a pas de parti politique. Il a été porté au pinacle en Occident, à juste titre, pour ce qu'il a fait. Mais ça ne lui donne pas de poids politique sur la scène congolaise. Alors, et on nous vend des personnages comme ça, un personnage de qualité, mais qui n'a pas de prise sur le système électoral, et qui lui aussi est victime de... Il n'a pas de parti, il n'a pas d'avion, il n'y a pas de route pour aller là où il est, etc. Bon, donc, attendre des résultats d'élections comme on les vit chez nous... Alors, je ne dis pas que chez nous, les élections soient parfaites, mais enfin, il y a quand même... presque deux siècles d'habitude des élections. Il y a un peu des tricheries ici et là, mais on arrive à avoir des élections à peu près normales dont le résultat n'est pas contesté, ou rarement. Là, on est dans des circonstances qui ne sont pas du tout satisfaisantes pour l'esprit. Donc, plaquer des mots comme démocratie, consultation, vote majoritaire et tout, c'est un exercice méprisant pour ces populations-là et pour ces peuples qu'on a maintenu dans cet état de dépendance. C'est ça qu'il faut voir. Et parce que pourquoi on les maintient dans cet état de dépendance ? Parce que s'ils étaient vraiment indépendants, c'est eux qui auraient la maîtrise de leurs mines.
Ah ouais.
Et c'est surtout ça qu'on ne veut pas. C'est surtout ça qu'on ne
Alors,
veut pas.
Justement, j'ai vu que Félix Tshisekedi, qui est l'actuel président, s'en était pris à Kagame, qu'il l'avait traité de Hitler avec l'esprit d'avoir des visées expansionnistes sur le Congo.
Tout à fait.
Et le docteur dont tu parlais, c'est celui qui a lutté contre les mutilations sexuelles.
Voilà, exactement. Okay. Voilà, c'est exactement ça, le docteur Mukwege. Mais qui, effectivement, aura peut-être un petit score, mais il n'a pas de parti, il n'a pas de moyens matériels. Donc, il ne joue que sur son aura, hein, sur sa qualité d'honnête homme, hein, pour ce qu'il a fait. Mais ça ne donne pas une assise électorale et ça ne donne surtout pas de moyens électoraux. Hein, il n'y a pas de force politique derrière lui. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Et donc, on a affaire à un Congo soi-disant indépendant qui, de fait, ne l'est pas. Et on veut qu'il ne le reste pas, parce que comme ça, M. Kagame peut s'enrichir en volant dans l'est du territoire. D'autres multinationales s'enrichissent aussi à leur façon. Et le gouvernement est là, à la rigueur, pour contresigner, pour donner un aspect d'officialité. Ah ouais. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors pourquoi, je le cite, M. Mélenchon a fait un voyage au Congo au mois d'octobre. Qu'est-ce qu'il est allé chercher? Je me demande un petit peu. Alors il a dit des choses, mais il a dit que c'est important pour la francophonie. Alors c'est très gentil, effectivement. Formellement, il y a 110 millions de Congolais qui parlent le français, puisqu'ils étaient belges avant, etc. Et dans la francophonie, en nombre de locuteurs, ça pèse beaucoup. Hein, ça fait deux fois la France.
Bon. Ah oui, c'est bon.
Alors, est-ce que ça durera? Il faut savoir que M. Kagame, le Rwanda qui était aussi dans la francophonie, à telle enseigne que c'est une ministre de M. Kagame qui est présidente de la francophonie à l'heure actuelle, a décidé que c'était l'anglais, la langue officielle. Alors, la langue officielle peut changer en fonction des positions politiques des uns et des autres. On verra bien s'il y a des résultats. Alors, il n'est pas même évident, au moment où je vous parle, d'où ce que je vous ai dit sur les bulletins de vote, sur les cartes d'électeurs, sur ci et sur ça, que les élections aient réellement lieu. On n'en sait rien.
Il y en a qui ne voteront pas.
Voilà. Bon. C'est triste et ça veut dire du mépris. Ça ne peut engendrer que du mépris pour les Africains. D'abord, regardez les élections en Afrique, c'est une farce. Mais c'est une farce qui est volontaire, qui est organisée par les colonisateurs. Ce n'est pas eux qui décident, ils aimeraient bien.
Voter la diaspora pour la première fois, apparemment.
Voilà. Hein. Alors, dans quelles conditions, là aussi qui, comment, voilà, etc. Hein. Mais ça ne pèsera pas très lourd par rapport à 45 millions d'électeurs. Hein. Mais voilà. Alors, c'est des apparences, effectivement, les Congolais qui vivent en Belgique, en France, pourront dire, ah, ben, cette fois, on a voté, c'est mieux. Ça n'arrange pas l'état des routes au Congo, ça n'arrange pas l'état des cartes d'électeurs, ça n'arrange pas tout ce qui ne va pas. Bien. Je voulais dire un petit mot sur la situation en Palestine, puisque c'est de ça qu'il faut parler intensément. D'une part, il est clair que les combats dans la bande de Gaza, on est dans une guerre entre un groupe de libération nationale, une force de libération nationale, et une armée. Hein, une armée d'envahisseurs, puisque c'est une armée de colonisateurs.
Bon.
Donc, un combat inégal, mais entre deux forces qui sont bien politiquement. Ce n'est pas le Hamas, c'est une guerre de libération nationale
voilà, oui.
Qui a lieu sur ce territoire de Gaza et qui a lieu même dans d'autres endroits de la Cisjordanie. Bon.
Ouais.
De ce point de vue-là, de point de vue de cette guerre-là, il faut savoir d'une part que l'ONU a démontré son inconsistance, puisque à nouveau, la semaine dernière, il y a eu un vote au Conseil de sécurité où la totalité des membres du Conseil de sécurité, les 15, ont voté avec un droit de veto des États-Unis. On n'a pas voté. Donc les États-Unis ne veulent pas que le feu cesse, on a bien compris pourquoi. Hein. Ça en est au point. Alors ça a des suites parce que quand même, ça commence à mettre en cause très sérieusement l'ONU et son mode de fonctionnement.
Ça
le met tellement en cause que monsieur le secrétaire général a compris qu'effectivement, là, c'est l'institution qui est en cause, qui est en train de s'écrouler dans l'incompréhension et dans la nullité parce qu'elle n'est pas capable de faire respecter ça alors que le monde entier voit ce qui se passe à Gaza. Bon. Et donc, la suite qui est intéressante, même si ça ne fait pas revenir les morts, on est à 20 000 morts aujourd'hui, la suite est intéressante puisqu'il y a une délégation de tous les membres du Conseil de sécurité hors États-Unis qui s'est rendue à Rafah, à la frontière. Et ce qu'on a vu, ce qu'ils ont vu, puisqu'ils sont arrivés au Naga 13, parmi les 13 représentants donc, de ceux qui sont membres du Conseil de sécurité, il y en a un, c'est le délégué d'Équateur, je crois, qui a dit « ça n'imagine pas ce que je pouvais imaginer sans l'avoir vu
». Ah, oui.
Bon, ça en dit très long. Et par rapport à ça, M. Guterres, qui a compris qu'effectivement c'est son institution elle-même qui s'écroule dans cette opération-là par l'entêtement des États-Unis, M. Guterres, ça veut dire qu'effectivement l'ONU est fragilisée par son incapacité à faire avancer un début de règlement humanitaire, même pas politique. Hein, même début.
Voilà. Je pense que ça remet en cause complètement les Nations Unies. Complètement. Il faut vraiment tout refaire.
Complètement. Et ça justifie la position de ceux qui disaient la charte des États-Unis, donc les principes, c'est bien, le fonctionnement actuel, ça ne va pas du tout. Et là, on met le doigt sur cette observation-là. Le fonctionnement, ça ne va pas. Non. On ne peut pas laisser faire ce qui se passe à Gaza sans réagir. Donc là aussi, on a... Alors, ça se fait dans le prix du sang, mais on a affaire à un tournant politique tout à fait important.
Ben, ils ne sont pas, jusqu'à présent, ils ne sont pas arrivés à occuper Gaza.
Non, non,
ça,
alors
c'est
en plus,
sûr,
les combats ont lieu.
Le
en
combat,
partie,
oui,
en
est très intense.
Voilà, dans le nord, où la population est partie, puisqu'on lui a dit de partir et qu'elle n'avait pas le choix, elle n'avait plus de logement, plus rien pour se loger. Bon, par contre, les combats continuent et l'armée israélienne laisse beaucoup de victimes. Elle n'arrive pas à avancer. Hein. Donc, effectivement, on est dans une vraie guerre de libération nationale, avec... Une armée de libération nationale, on peut appeler ça comme ça, puisque c'est ça, qui se bat et qui n'a pas perdu, loin s'en faut. Non. Et puis, on a la suite de la libération nationale côté nord, avec effectivement des échanges de tirs, de missiles, de drones, etc., entre le Hezbollah et l'armée israélienne.
Frontière libanaise. Voilà. Ouais.
Là aussi, on se bat.
Plus de 100 kilomètres.
Voilà. Sur toute la frontière sud du Liban, où l'armée israélienne est installée, au sud de la frontière, et où le Hezbollah est de l'autre côté. Et chaque fois que l'armée israélienne installe des postes de commandement, des centres de tir, etc., le Hezbollah riposte. Donc on a un front là aussi. Et puis il y a les actions sur la Cisjordanie elle-même, qui sont moins nombreuses, mais qui continuent à se développer. Et il y a enfin l'action des Yéménites.
Ouais, qui est très important.
Qui est tout à fait importante, puisque les Yéménites ont confirmé, ils l'ont fait et puis ils l'ont confirmé par écrit, nous ne laisserons passer aucun navire apportant du matériel à Israël tant qu'il y aura la guerre à Gaza.
Et ils l'ont fait. Il y a eu des bateaux français, il
aussi,
paraît.
Voilà, ça, parce qu'il n'y a pas besoin que ce soit un bateau avec un drapeau israélien à la poupe.
Avec, hein.
Il suffit qu'ils sachent qu'il y a du matériel dedans qui est destiné. Enfin, c'est facile, quand on sait le port de destination, c'est Eilat en général. Eilat, c'est le port du sud d'Israël.
Dans la mer Rouge, oui.
Voilà. Et effectivement, dès qu'on sait que ce bateau va à cet endroit-là, ça veut dire que c'est du matériel pour l'économie israélienne. Bon. Mmh. Le port d'Eilat, d'ailleurs, alors c'est assez amusant, si on peut dire. Le port d'Eilat a dit que son chiffre d'affaires avait baissé de 80%. C'est-à-dire, ça n'arrive plus. C'est tout, point.
Ouais, ouais.
Et donc, à terme, ça met en cause la capacité d'Israël, même à avoir des armes, à avoir de l'armement, à avoir de quoi manger. Ça risque de se poser assez vite. Alors, c'est pas de la même échelle au niveau de l'horreur humaine, parce que les Israéliens ne sont pas encore en train de mourir de faim, que ce qui se passe à Gaza. Mais on voit bien que l'étau se resserre et que c'est compliqué. Et que là, on n'a pas affaire à une guerre de l'Égypte contre Israël, de la Jordanie contre Israël. D'ailleurs, il ne fallait pas l'imaginer parce qu'ils ont signé des traités de paix. C'est même pas une guerre de la Syrie contre Israël. C'est une guerre de la libération nationale palestinienne qui se fait contre l'occupant. Voilà. Là, on repose les choses correctement sur leurs pieds.
Et de leur côté aussi, du côté de la Syrie, de l'Irak, qui de temps en temps...
Voilà, il y a aussi des gens qui font ce qu'il faut.
Ouais.
Et j'en arrive au point où je voulais vous parler, annoncer l'émission de demain soir. Demain soir, on va parler d'un sujet sur l'impérialisme, la guerre et le droit. L'idée est très simple, que je résume aussi rapidement que je le peux, c'est de dire qu'il y a quantité de droits qui, depuis la Première Guerre mondiale et surtout depuis la Deuxième, ont essayé de cadrer la guerre. D'abord que ce soit la guerre entre les armées et pas contre les civils, c'est bien. De cadrer la guerre pour pas qu'on utilise des armes épouvantables, comme les armes atomiques ou comme les armes chimiques. Alors là, le droit s'est accumulé. De plus en plus, convention sur ceci, convention sur cela, j'y reviendrai demain. Et puis en fait, on s'aperçoit que ce droit ne fonctionne pas ou mal. On a créé des institutions internationales, à l'image des tribunaux, à l'image du tribunal de Nuremberg. Et à ce propos, le tribunal du Nuremberg, donc c'est 45-46, donc qui est destiné à juger les crimes commis par les nazis sur le territoire européen principalement, c'est tout à fait clair, et on sait que ça s'est terminé par la condamnation à la pendaison de 18 dirigeants nazis, à l'exclusion de Hitler qui s'était suicidé avant, et à l'exception de Göring qui était condamné à la pendaison comme les autres, mais qui dans la nuit précédant la pendaison a absorbé une capsule de cyanure que quelqu'un gentiment lui a donnée, donc il n'a pas été pendu. Bon, enfin, il était condamné. Bon. Et il y a quand même eu deux ou trois acquittements, ce qui était un peu étrange. Bon. Mais ceci étant, donc, ce tribunal était une espèce de modèle, puisqu'on condamnait les auteurs nazis des crimes épouvantables, comptait le nombre de morts, non seulement les morts juifs, les morts ziyades, et puis tous les morts de cette guerre épouvantable, qui était une guerre d'invasion, c'était une guerre raciste. Et je voulais vous dire, ça servira simplement d'introduction à l'émission de demain, que le tribunal était organisé par les quatre puissances victorieuses, donc vous savez, donc URSS, États-Unis, France et Grande-Bretagne. Ouais. Et donc chacun des pays était représenté par un procureur qui est donc porté l'accusation. Et le procureur des États-Unis, qui s'appelait M. Jackson, au moment où il a tiré les enseignements du travail, a dit ceci. Ce qui constitue l'importance de ce procès, c'est que ces prisonniers représentent des influences sinistres qui se dissimuleront de par le monde bien longtemps après qu'eux-mêmes seront retournés en poussière. Ce monsieur, il dit ça en 1945. Il dit, vous voyez, au juge, parce que lui, il est procureur, vous allez juger des personnages qui ont fait ce qui a été démontré. Il y a des témoignages que quand on leur a montré des vidéos des camps de concentration et tout, les dirigeants nazis pleuraient, hein, parce qu'ils se rendaient compte, mais c'était trop tard, hein, de ce qu'ils avaient organisé. Bon, je reviens là-dessus. Ces prisonniers représentent des influences sinistres qui se dissimuleront de par le monde bien longtemps après qu'eux-mêmes seront retournés en poussière. Et ça s'est vérifié après, parce que Eichmann, on l'a trouvé où ? En Argentine.
En Argentine, ouais.
Barbie, on l'a trouvé où ? Et puis, ce qui n'est pas dit là, mais ce qu'on sait maintenant, c'est que tous ceux qui ne sont pas passés à Nuremberg, parce qu'il y avait les hauts dirigeants, les 18 de Nuremberg, puis il y avait les échelons juste en dessous. Les échelons juste en dessous, ils n'ont pas été condamnés à rien du tout. Et ils ont fait leur carrière où ? D'abord aux États-Unis. Et puis ensuite, on les a recyclés en Allemagne fédérale. Hein. Les services, la CIA a été créée aux États-Unis, il y avait déjà un service de renseignement, a été créée aux États-Unis par un ancien dirigeant nazi. Ah, c'est ça qu'il faut savoir.
Bon.
Alors, ce que ajoute, je finis sur les propos de Jackson, nous montrerons qu'ils sont des symboles vivants des haines raciales, du terrorisme, de la violence, de l'arrogance et de la cruauté du pouvoir. Ce sont des symboles d'un nationalisme et d'un militarisme farouche, d'intrigues et de guerres qui ont jeté la confusion en Europe, génération après génération, écrasant ses hommes, détruisant ses foyers, appauvrissant sa fille. Voilà. J'en dirai un peu plus demain. C'est ça le cadre. Or, en fait, et j'anticipe sur ce que je développerai demain, tout ce qu'il annonce, M. Jackson, c'est réalisé. C'est-à-dire que les autres nazis sont vivants. Il y en a en Ukraine. On les a sélectionnés pour ça.
Sûr, ouais.
Il y en a ailleurs. Hein. Et donc, en fait, ce qu'il souhaitait, lui, c'était que ce soit une bonne fois pour tout terminé. Et comme on dit, il y a un monument aux morts à Dachau, le camp de concentration là, qui est en Allemagne, lui, où il y a des inscriptions, une en hébreu, une en espagnol, une en anglais, etc., où il est marqué « Plus jamais ça hein. ». Nungamas en espagnol, ni Vedezo en allemand, hein, plus jamais ça. Puis c'est même marqué en hébreu. Et bien, ça a eu lieu quand même. Et ça, il faut expliquer pourquoi.
Ils le refont à Gaza.
Voilà, exactement. Et c'est ça que j'essaierai de développer demain soir et je souhaite vous retrouver à l'antenne. Merci de votre écoute et dans tous les cas, à la semaine prochaine, mais surtout
merci
demain soir.
Rose.